Vous écoutez
RMC. RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, les trois joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, moi, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit, on est là. Tout à l'heure à 23h, Julien Cazard nous rejoint dans une demi-heure les drôles de l'âme avec toute l'actu internationale, notamment Fred Hermel qui va nous expliquer comment Zidane et Bale sont redevenus potes. Et oui, parce que finalement ils sont redevenus potes.
Bah ouais.
Est-ce que c'est ça la vie du football?
Il est revenu, il le met, il marque, l'autre, voilà.
Et voilà, il est sur pote. C'est simple. Hein. Mais tout de suite, messieurs dames, la proposition du soir de Florent Gautreau concernant les hymnes nationaux. Jingle.
Monsieur Sarkozy, vous dire un petit mot. La voiture s'éloigne, je vais essayer de remonter sur ma moto.
Ça me nique mon avis, en fait.
Quel génie.
Magnifique.
Il l'a jamais rattrapé, en plus. Quel con.
Tu sais que là où il est fort dans ce petit jingle, c'est que plutôt que de dire « je me suis pris un gros vent par Sarko », il dit « ah, la voiture s'éloigne, je remonte sur ma moto ». Bien joué, chapeau l'artiste.
Regardez toute la soirée, c'est un peu ça.
Genre, en fait, je reste sur le coup, ouais. Plus que jamais.
Mais j'avais prévu plein de trucs à dire et à raconter au cas où ils me répondent pas. Et effectivement, j'ai passé mon temps, j'aurais fait une citation de je sais plus quel philosophe. Et puis comme
tu l'as revu quand même depuis.
Ben non, mais lui il a arrêté en plus, donc je crois que je l'arrêterai jamais. Mais bon, non, mais ben, c'était si pas là le meilleur moment.
Enverrai un texto.
Non, le moment le plus long et le plus fort à l'antenne, ça a été devant le Fouquet quand même. Un moment qui finalement était important parce que s'il y a eu tout ce passage qui a duré très longtemps devant le Fouquet, et en gros ce cafouillage, c'est parce qu'il attendait Cécilia qui n'est jamais venue. Et donc il y a eu un bazar dans les bagnoles officielles qui m'a laissé le temps de tourner autour de la voiture pendant 50 secondes en essayant de lui faire baisser sa vitre. Peine perdue. Mais bon, c'est pas grave. C'était un moment de télé.
Je pense qu'il était assez énervé que Cécilia ne vienne pas.
Bah, carrément. Il partait.
Elle a brisé.
T'aurais pu être le Benoît Duquesne de l'époque et tu ne l'as pas été.
Paix à son âme.
Exactement.
Allez.
Bon alors. C'est quoi ta proposition?
Ma proposition de loi,
il a fait un livre. C'est bon,
impressionnant.
Vas-y.
Non, c'est juste. On dirait Jonathan Macardy.
Deux, trois références juste. Évidemment, ça m'est venu suite à la boulette de samedi soir au Stade de France, effectivement. Bon, passons sur les excuses du speaker, finalement, aux Arméniens, ça c'est pas très grave. Enfin, c'est une boulette, mais on en a parlé tout à l'heure. Non, je reviens là-dessus parce que derrière. Il y a le contexte évidemment de ce qui s'est passé, puis il y a les conséquences. Et j'ai trouvé hallucinant qu'on ouvre les journaux sur ce problème-là, que derrière on multiplie les excuses, y compris au plus haut niveau. Macron s'est excusé auprès du Premier ministre albanais, Le Graët également auprès de son homologue, mais aussi auprès de l'ambassadeur albanais en France. Bref, ça a pris des proportions énormes. Certes, c'était une boulette et c'est une erreur et il faut qu'on en parle, mais j'ai trouvé incroyable que pour une histoire d'hymne, on en fasse une affaire d'État, en fait. Et m'est revenue, en fait, une idée, effectivement, qui est la mienne depuis très, très longtemps. C'est qu'en gros, moi, je souhaite qu'on arrête de mettre les hymnes nationaux avant les matchs internationaux. Parce que je pense que ça n'a rien à faire dans un stade de foot. Alors, évidemment, ça fait partie de l'ambiance, du décorum d'un match. Et moi-même, j'ai longtemps apprécié ce moment-là parce que ça marque le début. Il y a une forme de concentration, d'union, effectivement, avec le public. Mais le problème, c'est que on donne au foot un rôle trop large pour lui, trop important par rapport à ce que représente un hymne. Un hymne national, la Marseillaise en l'occurrence, les soldats français qui partent sur les territoires à l'étranger, vont chanter la Marseillaise. On a chanté la Marseillaise suite aux attentats de Charlie Hebdo en 2015, quand j'étais avec les Parisiens et les provinciaux qui étaient montés à Paris pour les grandes marches et en France et ailleurs. Il y a des moments comme ça d'union, le 14 juillet, le 11 novembre, ces moments-là, ils sont très important. J'ai la sensation qu'on galvaude un peu l'hymne national en le mettant avant un match de foot. Et surtout, un match de foot, ça reste un match de foot. C'est-à-dire que là, ce match-là, on met des hymnes partout pour un oui, pour un non. C'est ça que je reproche. Je ne reproche pas l'idée de mettre éventuellement l'hymne national comme on le fait aux États-Unis, par exemple, avant le Super Bowl, pour un grand moment où on se dit, tiens, on va se resserrer un peu tous au niveau de la nation et on va tous chanter l'hymne et on va mettre, en l'occurrence, une artiste ou un artiste pour le chanter. Ça pourrait être le cas, par exemple, à la finale de la Coupe de France. Il y a déjà le président de la République qui y est. On pourrait dire, tiens, à ce moment-là, c'est important. On va en profiter pour le faire. Mais nous, On le chante pas dans les écoles, pas encore, du moins, même si c'est revenu c'est un peu tort. À la mode. On le chante pas dans nos écoles, ce qui est la base, effectivement, et ce qui pourrait être la base de d'une éducation civique. On oublie même, je dirais, de célébrer un peu trop avec nos jeunes. Moi, je le fais avec mes enfants, des dates importantes comme le 11 novembre, je c'est le disais, ou le 14 juillet. Oui, mais ça, c'est pas fait. Mais par contre, à tout bout de champ, pour n'importe quel match, pour 15 matchs par an, on balance l'hymne national. Moi, je dis que cette dramatisation, cette politisation, ça encourage finalement les bas instincts qu'on voit parfois dans les tribunes d'ailleurs et qui n'ont rien à faire sur un stade de foot. On a dit à une époque, c'était Marx, mais qui parlait de l'opium du peuple pour parler du sport. Mais en fait, les gens sans s'en rendre compte, en fait, ils sont victimes de ça, les supporters. Parce que oui, effectivement, on essaie de vous enfumer parfois à vous dire, bah tiens, ça c'est plus important que le reste. Les politiques bondissent dès qu'il y a un bon résultat de l'équipe de France pour aller faire de la récup derrière. Et on l'avait dit, ça a été le cas en 98 quand les Bleus avaient été champions du monde. Moi, je dis que l'hymne national est quelque chose de plus important, qui dépasse de loin le sport et qui, quelque part, n'a rien à faire sur un terrain de sport. Et je vais plus loin. Je dis que.
Tu proposais la même chose sur des podiums olympiques, par exemple?
Non, voilà. Non, mais après, moi, je dis pas qu'il faut supprimer partout, parce que quand c'est une victoire, déjà, c'est différent, parce que c'est quand on gagne qu'éventuellement, il peut y avoir un moment, je dis, d'union. Moi, je dis juste ce qui est rare et cher, et je pense que la rareté vaut pour l'hymne national. En revanche, qu'il y ait une atmosphère, une ambiance dans le stade, qu'il y ait pour les football, pour les clubs, des hymnes comme le You'll Never Walk Alone de Liverpool, qu'il y ait des musiques comme Jump à Marseille, qu'il y ait des choses, des moments musicaux comme la musique de la Ligue des Champions dont les joueurs raffolent. Moi, je suis pour. Et moi, je suis pour d'ailleurs ce football de club qui a créé ces moments-là de par l'histoire du club, de par l'histoire sportive qui s'est écrite toute seule, plutôt que d'imposer cette chose très politique, ce moment très politique avant une rencontre de foot qui donne un aspect finalement dramatique à ce qui n'est qu'une rencontre sportive.
Mais Jonathan, Jérôme, est-ce que vous êtes d'accord avec Flo?
J'entends les arguments de Flo, mais je peux pas être d'accord. Alors déjà, que la France se soit excusée et ait fait 1000 excuses au gouvernement albanais, ça me semble tout à fait logique. Le rôle de la France pendant la guerre dans cette zone du monde, et puis le rôle du gouvernement français, du gouvernement Chirac à l'époque, lors de la construction des frontières avec l'Albanie et Kosovo, est trouble. On a une histoire avec cette zone du monde, on a une histoire avec l'Albanie, et c'est tout à fait normal. Des rapports diplomatiques qui sont peut-être un petit peu tendus, mais c'est normal, tu vois, de s'excuser
tu vois ce qu'on fait porter déjà sur une erreur au Stade de France avant un match de foot. On va aller rechercher des histoires effectivement bien plus graves qui dépassent de très loin tout ça, alors que ça n'a rien à voir.
C'est juste que c'est un fait. Après, sur les arguments que tu avances, je suis d'accord avec toi, sauf que
C'est pas la France contre l'Albanie, c'est l'équipe de France contre l'équipe de foot d'Albanie.
Alors c'est là où je vais te répondre, sauf que moi je trouve que quand tu regardes l'histoire du football, l'histoire des sélections nationales. Je sais pas, on va prendre un match au hasard, on va prendre le fameux Argentine-Angleterre avec la main de Maradona. L'histoire du football est jalonnée de ces histoires de fierté patriotique qui s'affrontent les unes contre les autres, qui dépassent justement le cadre du sport et qui sont pour les nations qui sont représentées par cette équipe un moyen, je dirais, de faire la guerre pacifiquement entre guillemets.
Alors oui, c'est l'opinion. Connais la citation de George Orwell.
Laquelle? Il y en a tellement.
Ben George Orwell disait, je l'ai retrouvé là, le sport c'est la guerre, les fusils en moins.
Voilà, c'est une manière. C'est, je dirais que à la manière du.
On est d'accord ou pas d'accord. Il n'y a pas forcément raison sur tout, le mec. Hein.
Non, mais tu sais en quoi c'est intéressant. Je dirais que le football, c'est une dernière chose qui, à la manière du théâtre à l'Antiquité, a cette vertu cathartique pour les nations qui peuvent peut-être s'exprimer, exprimer leur envie de belliqueuse et leur véhémence envers d'autres nations de manière, on va dire, qu'on va qualifier de saine. Alors après, il est vrai qu'on a vu sur récemment beaucoup de dérives. Hein. On se rappelle les matchs avec le Kosovo, le drone, etc. Les messages politiques à droite à gauche. On va pas refaire l'histoire. Moi, je peux vous parler de nombreux matchs Irlande du Nord, mais ce que je vois, c'est que le football, c'est un de ces derniers facteurs dans la société qui est vecteur de ces valeurs-là et qui permet aux gens de s'affronter d'une manière pacifique. Et juste pour terminer, parce que je sais que je suis un peu long, un des premiers matchs de foot que j'ai vu, c'était dans les années 90, c'était Irlande du Nord. Bon, on connaît l'histoire entre les deux nations. Et ben, je peux te dire que pour toute ma génération et pour toute la génération au-dessus de la mienne, ce match venait dire quelque chose et que c'était une manière d'expulser un petit peu cette espèce de ressentiment envers l'autre pays, mais d'une manière, que je qualifierais de bon enfant. Et ça, je pense qu'on ne doit pas nous l'enlever.
Juste pour répondre à ça, je ne dis pas que le football n'est pas politique, moi. Moi, je dis.
Il est éminemment politique. C'est un objet politique.
Je ne dis pas ça. Là, tu dis quelque chose qui n'a rien à voir avec mon avis. Je parle de l'hymne avant le match. précisément de cela. Moi, que effectivement, quand l'Argentine, en pleine guerre des Malouines, rencontre l'Angleterre, évidemment que ça a d'autres connotations. Mais c'est pas pour ça que de mettre l'hymne, au contraire même. Je te dis juste que de mettre sur les épaules des footballeurs, de mettre les supporters dans cet état-là, juste à ce moment-là, avec l'hymne, je pense que c'est une erreur parce que déjà, en soi, effectivement, il y a de la politique autour d'un match. Donc moi, je dis juste
c'est
que.
C'est le symbole de
je
tout
dis juste
ça.
Que quand
obligé
a,
de l'avoir.
Je dis juste que quand il y a France-Allemagne, surtout, c'est marrant, c'est une méline. Effectivement, dans des cas, tu vois, quand Charles Leclerc gagne ou la Scuderia Ferrari l'emporte, ils ont gagné, tu mets l'hymne. Bon, nous, on met l'hymne avant les matchs, avant tous les matchs. C'était plutôt sur le fait qu'on ne le mettait pas assez, de manière assez sensée.
C'est un vecteur de rassemblement patriotique, Flo.
Jérôme Bretagne. Jérôme, ton avis, est-ce que tu es d'accord avec Florent ou pas?
Non, je ne peux pas être d'accord. Après, j'entends tous les arguments de Flo. Et je ne dis pas qu'il dit n'importe quoi, bien au contraire. Mais. Moi, je vais parler juste du terrain et encore une fois des joueurs, du ressenti des joueurs. Ça fait partie du folklore aujourd'hui d'un match de foot avec ta sélection, c'est d'avoir l'hymne avant. Mais il n'y a pas que dans le football que ça se passe comme ça. Il y a beaucoup d'autres sports, surtout les sports co, où il y a l'hymne qui résonne avant les rencontres et pas que quand t'as gagné à la fin. Donc déjà, pour moi, le folklore, je suis tellement nostalgique de du football que j'ai connu quand j'étais gamin et le football que j'ai eu la chance de connaître sur le terrain, que pour moi, l'équipe de France, c'est ça. T'arrives en sélection, il y a une façon. C'est Jonathan qui parlait de se sentir patriote. Encore plus, nous, on souffre de ça en France. On va le dire, il y a plein de pays qui sont beaucoup plus patriotes que nous.
Ça, c'est une appréciation personnelle.
Mais il y a quelque chose qu'on peut
toi,
dire.
Tu le ressens comme ça. D'autres vont te dire que c'est trop, on en fait trop avec les hymnes.
Non. Moi, je ressens que la France, c'est comme ça. Autant, moi, j'ai toujours été... très fier, mais ça veut pas dire que ceux qui sont en équipe de France ou qui jouent avec moi ou même avant n'étaient pas fiers de porter le maillot, mais moi il y avait quelque chose de particulier. J'espère que tous les joueurs ressentaient la même chose que moi, mais il y a beaucoup d'émotions et cet hymne te met dans cette peau là et pour moi c'est la grande différence entre un match joué avec ton club et un match joué avec la sélection. Il y a tellement de choses à travers la sélection que pour moi retirer les hymnes c'est une manière de partir
à la guerre sans la faire.
Les gars.
Et après, il faut juste remettre les choses dans le contexte. Flo donne cet avis-là, c'est par rapport à l'histoire qui s'est passée au Stade de France,
mais,
surtout.
Mais en règle générale, ce que tu dis, moi, m'intéresse. Juste avant de donner la parole, c'est à Arthur. Juste, c'est que tu as raison sur la culture, et je le disais tout à l'heure. Moi, je préférerais qu'on commence par mettre l'église au milieu du village en mettant l'hymne et éventuellement le drapeau à l'école, systématiquement pour les commémorations.
Moi, tu dis à l'école, moi j'ai appris l'hymne.
Oui, mais
maintenant ils le font plus.
Oui, non, mais ils vont peut-être le refaire. Mais ce que je veux dire, c'est
peut-être.
On en est là. Et il faut commencer par les choses importantes. Ce que je veux dire, c'est qu'avant un match, tout ce que tu dis sur la fierté de porter le maillot et tout pourrait exister, selon moi. Sans l'hymne.
Ouais.
C'est pas.
Mais ça fait
pas. Platini ne chantait pas l'hymne, il a toujours dit.
Petit tour.
Mais je suis fier d'être français et j'ai pas besoin de l'hymne.
Non, mais alors, justement, moi je voulais revenir à ça. Parce que moi je suis globalement d'accord avec Florent. Et en fait, le truc qui me dérange actuellement, et ça a été lancé par le Brésil, c'est qu'il y a une espèce de surinterprétation de tout ce qui se passe autour des hymnes. Et une espèce parfois de surpatriotisme un peu gênant. Je veux dire, à l'époque effectivement de Platini, il y avait les hymnes. Les mecs chantaient pas, tout le monde s'en foutait. Bon, ça passait, c'était pas le moment du match, c'était pas les hymnes. Maintenant, t'as l'impression que le moment du match, c'est les hymnes. Le Brésil joue, faut absolument regarder l'hymne, et puis s'il y a pas un mec qui chiale, oh ben c'est pas bien. L'autre fois, Evra, il y a quelques années, pleure pendant l'hymne, oh magnifique, Evra pleure pendant l'hymne. Franchement, on en fait pas des caisses pour pas grand chose.
Non, mais on est d'accord, regarde.
On est obligé de surinterpréter tout ça.
En fait, le problème,
la vérité, c'est que.
Mais t'es pas obligé, là, tu vas dans l'excès, mais toi aussi, tu vas dans l'excès.
Absolument surpatriote, parce que sinon, c'est pas bon
du tout. Il y a pas que des joueurs comme ça où
le vrai problème sous-jacent de tout ça, c'est que ça dépasse le cadre. On va pas faire ce débat là dans l'after, mais c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a une crise identitaire sous-jacente qui traverse la France. Il y a un problème. On a un problème. Le pays a un problème avec
très bonne remarque,
cette notion de patriotisme ou pas.
Très bonne remarque de notre Paul Vecchio, qui dit pas que des conneries. Ça arrive pas souvent, mais il dit sans les hymnes, on n'aurait jamais su que Manu Petit avait le cœur à droite. Et ça quand même.
Exactement. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Mais ouais. Et toi, tu veux nous retirer tout ça?
Mais non. Moi, je veux.
Top. Arthur est là.
Salut Arthur.
Bonsoir Lester. Salut Arthur. D'accord avec Florent ou pas?
Pas du tout. Même si j'entends ce qu'il dit, moi je suis pas d'accord parce que l'hymne, voilà, c'est pas juste la musique qu'on met, c'est pas juste un protocole qui est relatif au football. Dans tous les sports depuis toujours, me semble-t-il, il y a toujours eu les hymnes nationaux avant, soit un match international, soit un combat dans un sport individuel, que ce soit, on a toujours vu ça aux Jeux Olympiques, que ce soit donc sport individuel ou sport collectif, ça a toujours été comme ça, ça a jamais vraiment posé de problème. Ne semble pas à personne. Je pense
c'est mon côté iconoclaste.
D'accord. Ça a jamais posé de problème. Si je peux faire une petite parenthèse sur ce qui s'est passé samedi au Stade de France, pour moi, ça peut très bien arriver. C'est humain. C'est arrivé une fois, et je pense qu'avec le bruit que ça a fait, à juste titre, je trouve ça tout à fait normal quand même qu'on en parle. Ça ne réarrivera pas de sitôt. Alors même si je sais que Florent, tu disais que c'était pas à cause de ça que tu voulais faire cet avis tranché ce soir, c'est quand même ça qui t'y a fait penser, à moins que peut-être, je sais pas, que tu y aies pensé avant.
Non, mais j'en ai déjà parlé, effectivement. Après ce que j'ai, oui, effectivement, trouvé, et le lien qu'il y avait, c'est que très vite, tout le monde s'est senti obligé, Macron, de présenter les excuses. Tout de suite, on a senti la dramatisation. Vous pouvez dire, oui, ok, bon, il y a une erreur. Évidemment qu'il n'y a aucune volonté de blesser les Albanais. Ça m'a fait penser.
Notre histoire avec l'Albanie aussi.
Oui, mais peu importe, ça m'a fait penser au fait que oui, avant un match, on se met une bonne musique, un bon chant de supporters, parce que c'est l'histoire, et puis on va jouer au foot. Puis voilà. Mais bon, après, je sais très bien que ça existe ailleurs et partout.
Les gars, il y en a une autre dont je ne me souvenais pas. Le canular de Gérald Dahan avec Zidane. Vous vous souvenez de celle-là? Avant le match France-Irlande, il appelle Zidane en se faisant passer pour Chirac en disant j'aimerais bien que les joueurs mettent la main sur le cœur. Et tout le monde le faisait. Tous les mecs l'ont fait. J'ai la photo là de Willy Sagnol.
Exact. Ils sont cons, les mecs.
Mais il y a aussi la crise de rire en Islande ou je ne sais pas où avec les champions du monde 98. Où il y a une femme qui chante l'hymne français,
oui, très mal.
De manière tellement particulière que Barthez
et Lizarazu mort de rire. Bon, Arthur, t'aimes bien les hymnes?
Ah oui, moi c'est toujours un moment de plaisir.
T'aimes bien le Stade de France?
J'aime bien, oui, j'adore.
Très bien. On te file les deux places pour demain soir. Si t'as envie d'aller au Stade de France voir France Andorre, c'est cadeau.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Gilbert.
Eh ben, écoute, comme ça, tu pourras kiffer l'hymne. Vérifie que c'est le bon, hein.
Oui,
De toute façon, il est prêt. Hein, il connaît prêt, donc ils ont juste appuyé sur play.
En plus, l'hymne d'Andorre est bien prêt, on l'a bien vu samedi soir, il est en réserve.
Ouais.
Merci Arthur. Salut à toi, Arthur.
Merci beaucoup et merci beaucoup pour les places, Gilbert.
De rien, bon,
c'est Gilbert, c'est moi. Salut.
C'est l'after.
Il trace aussi pour le resto d'avant.
Quelques réactions sur Direct Studio.
Gilbert, chose,
Karim qui nous dit entièrement d'accord avec Flo, la FIFA est contre l'ingérence des politiques, donc l'idée de Flo est légitime, après tout. L'hymne devrait être une récompense de la représentation nationale. Voilà, donc ça va dans le sens de ce que dit Florent. Et puis Petit Go qui lui dit: moi personnellement j'ai appris les paroles de la Marseillaise grâce au match de l'équipe de France, gardons cela s'il vous plaît.
Il a raison, hein. L'école et les fonctions régaliennes de l'État sont défaillantes dans ce cas-là.
Tu sais, je te rassure, moi j'en ai connu à mon époque, il la connaissait pas, il la connaissait grâce à l'hymne avant les matchs.
Ça veut bien dire qu'il y a un problème.
Bah oui.
Et Faust qui nous dit, Florent a raison.
À l'école, tu vas l'apprendre où?
Diffuser l'hymne à tort et à travers, le désacralise. Voilà. Je savais pas que au championnat de France de hockey, nous dit Faust, il y avait la Marseillaise avant chaque rencontre. Il dit au bout de la sixième fois, plus personne l'entend et tout le monde s'en fout. Je savais pas que ça existait en France. Aux États-Unis, c'est le cas. Faust nous dit qu'au championnat de France de hockey sur glace, il y a la Marseillaise
avant tous les matchs.
Eh ben.
Comme ça se fait aux États-Unis.
Au Stade Bollard, il y a l'hymne retour. Retour des joueurs,
ils courront.
Non.
Oui, mais c'est pas la Marseillaise.
Mais si, il y a la Marseillaise.
La Marseillaise Lançois, c'est un chant de supporters.
Un chant de supporters.
Ouais. Bah oui, mais c'est
l'hymne de Lens, qui est diffusé en retour de deuxième mi-temps, c'est les courants.
Alors ça, c'est encore autre chose. Si après, pendant le match, les supporters se mettent à chanter la Marseillaise par envie, par communion.
La Marseillaise Lançois, c'est la version lançoise et la Marseillaise.
En plus, je sais pour Lens, mais même en général, tu pourrais très bien l'imaginer dans un stade, il n'y a aucun problème. Et surtout, je faisais une petite parenthèse, mais ça m'est tout à fait propre, c'est que, pour moi, je suis plus venu au foot par les clubs et par le foot de club que par les équipes nationales. Et encore une fois, justement, parce qu'à chaque fois, les gens me disent « Mais dis donc, tu te rends pas compte, on est français quand même, comment tu peux tenir ce discours ?» Je me souviens notamment de la main de Henri. Je me souviens, j'avais pris plein la gueule, parce que j'aurais dit « Mais écoutez, non, les mecs, si on a triché, on peut très bien reconnaître qu'on a triché, et donc on a le droit de dire ça, parce que ça n'est qu'un match de foot. C'est pas la même chose de parler de ça, de se dire patriote sur un match de foot, ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour voir le choix que tu fais. Il faut quand même raison garder. À un moment donné, le mec dit « Putain, je comprends pas, t'es français, tu dois réagir comme ça. » Bah non, c'est du sport, donc même en étant français, tu peux dire que l'équipe de France joue tellement mal qu'elle te fait chier, ou tu peux dire que Henri a mis la main et ça me fait chier de passer grâce à ça. Donc c'est quand même des notions différentes, je trouve.
T'as pas dit ça,
de dire que le
t'avais
sport
dit ça à l'époque.
Ouais, j'ai dit ça à l'époque.
C'est
ouais.
pas vrai. Mais comment t'as
moi je pense
t'as
qu'à
osé.
L'époque Henri, moi pour moi,
allez, on conclut. Comment t'as osé
non, pour moi à l'époque Henri se serait grandi juste en disant
mais ça va
pas. On peut éviter de parler de ça.
Énorme. Bah, c'est pas tout à fait le débat du soir, on pourra le refaire
mais
un jour.
Voilà. Non mais il me demandait,
j'ai quel scandale, il a pas dit ça quand même.
Bah si à l'époque,
je le répète.
Bah, c'est l'avantage de Florent, c'est qu'il ne bouge pas d'ailleurs.
S'il y avait eu les réseaux sociaux, t'étais mort. Hein.
Ah oui, c'est sûr. Mais j'étais mort. C'est comme pour les hymnes. Hein. Tu pars avec. C'est du 80, à mon avis, c'est du 80.
Ouais, non, c'est assez équilibré, je trouve. Je m'attendais effectivement à ce que tout le monde soit contre toi.
Exactement.
Ça n'arrivera pas, donc on s'en fout.
Messieurs, s'il vous plaît, il y a eu des buts chez les Espoirs. Loïc Braillet à 3, France-République Tchèque.
Et tout va bien pour les Bleus dans ce match amical. Ah ouais, 64 minutes, 3 buts à 1 pour la France désormais. La doublé d'Hudson Edouard et but de Mbemo, donc celui qui était formé à l'Estac, qui connaît parfaitement le stade.
Qui a des repères.
Et qui a des repères, sans doute. Et franchement, Edouard, il fait quand même un super match. Et c'est son deuxième doublé, on en parlait tout à l'heure. Hein. Il avait marqué un doublé à Amiens. Et bien, il récidive à nouveau ce soir. Il est parfait. Le dernier but de Hudson Edouard, c'est magnifique. Fin de frappe, il y a deux défenseurs qui partent dans la fin complètement dans le vent. Il ouvre son pied pour venir battre le gardien tchèque. Il a un peu le profil de Moussa Dembélé, c'est vrai. Quand on pense à un club comme par exemple l'Olympique de Marseille qui a fait venir un super joueur sud-américain, il n'y a aucun souci, Jonathan. Mais le profil d'un Hudson Edouard qui brille au Celtic, hein, outre-Manche, il est adoré. Hudson Edouard, c'est vrai qu'on aurait presque
aimé l'avoir.
En Ligue 1.
L'humiliation de devoir faire un recrutement low cost et de prendre un joueur formé au PSG. C'est un super joueur, hein, mais voilà, je préfère avoir Benedetto.
J'ai pas fait le parallèle avec sa formation au PSG, c'est vrai. Mais
non, et puis il a besoin.
J'ai dit Marseille, mais on aurait pu citer d'autres clubs, il n'y a pas de souci.
Non, mais je te rejoins, je pense que j'espère qu'il arrivera à passer un cap et à jouer dans un championnat majeur. Et pas rester en Écosse.
Parce qu'en
Écosse
l'année prochaine.
Point score sur les qualifs de l'Euro. L'Allemagne mène toujours 1-0. En Irlande du Nord, il reste 11 minutes à jouer. Vous dire que la Belgique mène toujours 3-0 en Écosse. Il reste 10 minutes à jouer. Pas beaucoup de buts ce soir. Un match à but, c'est Slovénie-Israël 2-2 à 12 minutes de la fin. Voilà pour les principaux résultats. La Pologne n'arrive pas à battre l'Autriche. 0-0 toujours après 78 minutes. Rendez-leur, Ludovic Obraniak.
Hein, Russie-Kazakhstan.
Russie-Kazakhstan 0-0.
Ça doit pas être mal, ça.
Un petit derby. Allez, à tout de suite dans l'after avec les drôles de l'âme.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Ils sont là jusqu'à minuit, Jonathan Macardy, Florent Gautreau et Jérôme Roten. Un petit tour chez les Espoirs, simplement le score, le temps qu'il reste à jouer entre la France et la République tchèque. Loïc Braillet à 3.
3 buts à 1 pour les Bleus, il reste moins de 20 minutes. Doublé d'Hudson Edouard et but d'Embemo et de bien belles choses quand même côté jeu pour les Bleus.
Les drôles de l'âme dans quelques secondes, juste avant. On n'a pas énormément d'archives dans l'after, c'est un problème, on n'est pas très bon de ce côté-là. Mais on a retrouvé un truc, c'est Florent Gautreau, juste après la main de Thierry Henry.
Thierry, tu peux faire le geste de ta vie. Monsieur l'arbitre, tu fais main. Il ne l'a pas fait pour lui, pour tout le monde, c'est tellement dommage.
Voilà, ça c'était Florent. C'était en 2000,
2010.
2000, pas en 2010, c'était en 2009. Fin 2009.
Novembre 2009. Novembre 2009.
Oui.
Il y a 10 ans, et voilà.
10 ans.
Ça fait encore mal.
Je ne retire pas un mot.
Merci Flo.
Parce que
heureusement que j'étais pas dans la peur. Je pense qu'on serait bien.
Il a raison. Il a raison.
Allez, les drones de l'âme, c'est parti.
Ah bon, et Maradona, t'as dit il a raison.
Mais là, c'est.
Tiens, tu vas parler de Maradona tout à l'heure, on va voir.
Deux poids, deux mesures.
On va voir.
C'est vrai que là, il t'a calmé, quand même.
Mais deux poids, deux mesures, le patriotisme.
Ah non, mais j'attends de voir ce qu'il va dire sur Maradona. J'attends.
Deux poids, deux mesures,
j'attends. Et Lionel Messi aussi a marqué de la main.
J'assume deux poids, deux mesures.
Et Vata.
Et Thierry, c'est même pas un but en plus.
Non, c'est vrai.
C'est légèrement aidé. Ouais. Oh, franchement,
on s'en souviendra.
C'était un geste naturel.
Et personne n'a oublié que.
Bah, c'est, ouais,
mais tout le monde a oublié que c'était un but en fait.
s'en souviendra. Mais en plus, il joue en Angleterre.
Ouais,
ça veut tout dire.
Ouais, c'est moi qui ai marqué.
Il joue en Angleterre, il a sa statue à Londres, ça veut tout dire.
Fred Hermel est parmi nous, salut Fredo.
Ça veut dire que toutes les choses grandioses, mais aussi toutes les conneries que j'ai dites depuis 18 ans, vous les avez encore voilà, Ticos.
Peut-être pas tout quand même.
Pas depuis 18 ans, Fred. Hein, Fred depuis l'année dernière.
Puis comme tu l'as dit, un sacré paquet, on n'a pas tout gardé.
Ouais. Attends, oui, c'est pour ça qu'il faut faire le tri.
Et mais Fred, là ça va, parce qu'encore, c'est un truc que j'assume totalement. Mais il y a les plans, surtout quand tu dis d'un joueur, celui-là, je le vois en équipe de France.
Ah oui, oui.
Et puis, là, je t'annonce que.
Et
là,
il finit en division d'honneur.
Ça arrive à tout le monde.
En fait, je veux dire que Francis Lalanne, quand il a dit que le Talek, c'était un
des meilleurs attaquants du monde.
Et le problème, c'est qu'il l'a dit quand il jouait à Orléans.
Le problème, c'est qu'il l'a dit il y a un an et demi.
Il joue avec son cœur. Faut qu'on
voit. J'étais sûr et je clamais il y a quoi, il y a 4 ans, que l'après Ronaldo Messi pour le Ballon d'Or, c'était James Rodriguez Neymar, hein, j'en étais persuadé.
Non, 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 non. Toi, t'as dit une énorme connerie.
Laquelle?
Concernant un gaucher du Real Madrid.
Asensio allait devenir un grand joueur.
Voilà, qu'il avait comparé.
Ah oui, le pauvre, il s'est fait les croisés.
Non, t'as pas dit Ballon d'Or, Asensio?
Bon, c'est vrai.
Il a le talent d'un Ballon d'Or.
On avait été d'accord ensemble, on avait dit au moment où on l'avait dit, qu'Asensio était meilleur qu'Mbappé.
Il était
moi, j'assume quand j'ai des conneries. Il n'y a pas de problème.
Sauf qu'il s'est perdu en route.
J'assume.
Il s'est perdu en route. Il a découvert la vie. Non, il a découvert la nuit madrilène. On est plusieurs à s'être perdu comme ça.
Exactement.
Sauf que moi, je fais de la radio, je ne joue pas au foot.
Et en plus, on assume.
Allez, passons à la suite. Moi, j'avais dit David Zitelli, Ballon d'Or à Strasbourg. Mais j'avais 12 ans. C'était avec mes potes. Donc, ça comptait pas.
On joue à Metz ou à Strasbourg?
À Strasbourg, à Metz, voyons.
Alors, moi, j'ai demandé.
Il a joué à Metz, David Zitelli. Excuse-moi. Il a été meilleur à Metz.
82, stage Platini, les stages 10 Platini que j'avais fait. Platini arrive une fois dans la semaine. Et j'étais supporter de Tours. Qui
vous a dit bonjour ou pas?
Ouais, bien sûr. On a joué
à Verraquet, bien sûr.
Et il arrive et je lui dis tu pourrais pas venir à Tours? Et là, du Platini, tu vois, au lieu de dire, par exemple, il aurait pu dire ah non, ben non, non, c'est genre, oui, pourquoi pas, mais non, enfin, sympa, il fait qu'est-ce que tu veux que je vienne foutre à Tours? j'avais 10 ans, le mec, il m'a séché, et il signait à la Juve, puisqu'il venait de Saint-Etienne, c'était l'été 82.
Il a hésité entre Tours et la Juve, il a hésité 2 minutes. Hein.
Faudrait qu'un jour, on ressorte les plus belles saucisses des uns et des autres. Parce que voilà, autant les assumer, quoi. Je pense qu'il y en aurait des belles. Hein.
Mais bon. Ouais.
Simonet Romera est également là, salut Simonet!
Ciao, voilà,
salut Simonet.
Pas des saucisses en italien, non. Donc,
toi, tu les manges, les saucisses.
Voilà, écoute, la saucisse Chalibra est très bonne, que c'est une petite ville à côté de Turin. Mais non, j'ai pas de bêtises. J'ai jamais dit que l'Italie allait à la Coupe du Monde ou des choses comme ça. Donc, je me souviens pas d'avoir dit l'Italie doit battre la Suède à tout prix, parce qu'il n'y aura pas de match. Non, non.
Non, non.
Ça va alors.
Ça va.
Ok.
Mais l'Italie gagne en Finlande.
Tant que tu vis bien, tu sais.
Et puis Julien Laurence également est là. Salut Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut
Julien.
C'est l'année compliquée pour toi, Julien.
Pourquoi?
C'est la première fois qu'on se parle cette saison. Bah, il va falloir confirmer. Hein. C'est bien beau de gagner.
Oui, c'est toujours le plus dur hein, de rester au sommet.
Ouais. Un coup comme ça sur un malentendu, là, oui, de victoire, oui.
Après.
Il faut confirmer sur la durée.
Non, tu sais. Une telle domination comme ça, ça peut pas être éphémère, c'est pas possible.
On fera les comptes.
Alors, messieurs, je pense qu'on va pas s'étendre mille ans sur vos sélections nationales ce soir, d'autant que Fred et Simonet ont déjà à peu près tout dit hier,
réglé,
hein, des matchs de l'Espagne et de l'Italie. Juste un mot sur les Anglais en sélection. Donc, il y a match à nouveau demain. Qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir, Julien, sur la sélection anglaise?
Donc demain contre le Kosovo, effectivement à Wembley, pour l'instant sans faute pour les Anglais, 3 matchs, 3 victoires. Contre la Bulgarie samedi, c'était plutôt une gentille promenade avec un triplé pour Harry Kane, et c'est le grand sujet de conversation ici en Angleterre. Est-ce qu'Harry Kane, qui aujourd'hui compte 25 buts en 40 sélections, réussira-t-il à battre un jour le record de Wayne Rooney qui est de 53 buts? On en parlera peut-être tout à l'heure un peu plus en détail, mais voilà, c'est le grand débat en ce moment qui fait parler les Anglais. Est-ce que Kane peut arriver au niveau de Rooney? Il a 26 ans, donc
juste un truc quand même sur le Angleterre-Bulgarie d'il y a quelques jours. Les Bulgares, quand même des génies, les mecs, ils avaient décidé de relancer court, hein, donc dans leur propre surface, petite passe, machin, avec en face Kane, Sterling et compagnie. Donc autant dire que je pense que le coach a fait un excellent choix tactique. Ouais. Bravo, hein, bravo au coach bulgare. On peut le féliciter, le mec.
Mais c'est intéressant que tu
parles. Tu vas le mettre à coup de couteau.
Non, mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que à force de dire qu'il faut du jeu, qu'il faut jouer. Tu as des équipes, même quand elles n'en ont pas les moyens,
qui savent pas le faire.
Et il n'y a pas que ça. Même des équipes qui en ont les moyens, qui abusent. Tu regardes l'un des buts des Pays-Bas face à l'Allemagne, et l'Allemagne, j'ai souvent trouvé à ce petit jeu-là, une forme de prétention, là, pour le coup. Ils savent le faire, effectivement. Mmh. Mais il y a des moments où tu ne dois pas le faire, et il n'y a pas de honte à jouer long. Enfin, tu vois, il n'y a pas de problème. Et ce systématisme qui fait que tu te dis, ah ben non, ben nous, on relance, de toute façon, il n'y a aucun problème. Et y compris maintenant avec les 6 mètres, tu sais, qui ne sortent plus de la surface.
Plus, d'autant plus.
Parce que tu relances court, très court, et t'es toujours dans ta surface.
On va avoir quelques conneries.
Moi, je pense que c'est une sorte de mauvaises habitudes, et effectivement, on va avoir des surprises.
Bon, je constate que Julien ne dit rien de ses dépendances, hein, écossaises et compagnie, parce qu'ils prennent que des tôles. Donc, bon.
Écoute. L'Écosse, effectivement, ils ont cru à un moment pouvoir se qualifier, et là, ils prennent cher contre Kevin De Bruyne à lui tout seul, hein, presque. 3 passes décisives et 1 but. Et puis, contre la Russie, ça a été aussi compliqué le samedi soir ou vendredi soir, je crois. Et puis, l'Irlande du Nord a tenu en échec un petit peu l'Allemagne, hein. Ils y ont cru pendant une mi-temps. Et puis après, un très joli but d'Alstenberg. Ouais, c'était pas loin. Ils se sont créé quelques belles opportunités. Et je pense que les Allemands vont s'en sortir, mais de justesse.
Ouais, là, il y a 4-0 pour les Belges, donc toujours 1-0 pour les Allemands.
2-0.
2-0 même.
2-0 pour les Allemands.
2-0 à l'instant, nouveau but allemand. Pardon ?
C'est Gnabry.
Exactement. Ouais, qui a marqué, qui ressemble de très un peu à Diony, le Stéphanois.
Juste rapidement.
Mais vraiment, même pas avec les mêmes pieds, pardon.
Oui, Julien.
Juste rapidement, Serge Gnabry qui était un joueur d'Arsenal, qu'Arsenal n'a jamais vraiment utilisé. Il a été blessé longtemps et souvent, c'est vrai, mais que Arsenal a laissé partir et qui est rentré en Allemagne et avant de briller maintenant au Bayern Munich. Et le jeune Daniel Malen qui joue pour les Pays-Bas, qui était titulaire ce soir pour sa deuxième sélection, qui était entré en jeu contre l'Allemagne vendredi soir, qui avait d'ailleurs marqué pour sa première sélection, était aussi à Arsenal chez les jeunes. Ça s'est aussi pas très très bien passé. Ils l'ont laissé repartir aux Pays-Bas, au PSV, où il fait un très bon début de saison. Et ces deux joueurs qui donc aujourd'hui,
c'est un peu comme les jeunes du PSG, quoi.
Non, mais c'est surtout sous l'ancienne équipe dirigeante, parce que ces joueurs-là sont partis avant l'arrivée d'Emery, de Sagnelli et des nouveaux dirigeants. Mais c'est vrai que c'est là où tu te rends compte aussi que, bon, parfois tu peux pas le savoir, hein, que ces joueurs-là vont exploser au moment où ils l'ont fait, mais tu aurais peut-être pu leur donner un petit peu plus de temps, un meilleur environnement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de voir Gnabry à ce niveau-là et Malen à ce niveau-là aussi, qui sont deux jeunes joueurs avec beaucoup, beaucoup de talent, c'est un petit peu dommage, c'était supporter d'Arsenal.
Oui, les Pays-Bas qui, un peu plus tôt dans la journée, ont gagné en Estonie, hein, pour ceux qui ont raté ça, 4-0. Et donc, j'aimerais que Fred nous raconte, depuis plusieurs jours, on le promet, ça y est, c'est le moment, la réconciliation Bale-Zidane. Fredo, que s'est-il passé ?
Eh ben, ils peuvent pas faire autrement. Voilà. On va dire qu'ils restent ensemble pour les enfants. vous voyez l'image ?
Convenance, ouais.
Voilà.
C'est en ça. Général, ce genre de plan, ça dure pas trop quand même. Hein.
Tant que ça tient jusqu'au mois de juin. Hein. Voilà. Bon. Ce qui s'est passé, alors, ce qu'il y a de fou quand même, c'est que quand on reprend les déclarations des uns et des autres de ces dernières semaines, c'est hallucinant qu'ils en soient là aujourd'hui et que Bale soit non seulement titulaire, mais aux côtés de Karim Benzema, le meilleur joueur madrilène du début de saison, quand même, hein, en match officiel. Bale voulait partir. Avec Zidane, c'est zéro communication. Zizou avait même dit, à la fin juillet, alors que le marché anglais était encore ouvert, hein, puisque c'est terminé le 8 août, et que le 2 septembre, le reste des marchés était encore ouvert, sauf le chinois qui s'est terminé début août. Et donc, Bale avait eu un plan en Chine, ça n'avait pas marché. Après, je te poserai la question, Julien. Le gros problème, c'est que les Anglais, personne n'a voulu de Bale, quoi. Et surtout, personne ne voulait de Bale à 15 millions nets par an. Zidane.
Attends, juste, alors, je te coupe à cela. Ouais. Julien, tu confirmes?
C'est ça, tout à fait. Tout à fait.
Ça, c'est incroyable.
Et c'est vrai que Manchester United aurait été le club vraiment pour lequel ça aurait pu le faire, parce que même s'ils aiment en ce moment recruter des jeunes joueurs, c'était parfait pour eux, et lui n'avait pas trop envie d'aller dans le nord de l'Angleterre, et eux surtout financièrement pour eux, même s'ils en ont les moyens, c'était très peu envisageable de les voir faire une opération pareille.
Alors, on était allé tellement loin entre les deux hommes que fin juillet, il y avait eu l'Audi Cup, vous savez, à Munich. Mm-hmm. match, parce que cette marque de voiture, j'allais dire de chaussures, de voiture, elle est commune au Bayern, à Galatasaray et tout ça. Bref. Et Bale avait dit à Zidane, non, mais je me sens pas bien, je suis stressé, toutes ces histoires sur mes transferts, tout ça, je préfère rester à Madrid. Ok, bah, tu veux rester à Madrid, tu restes à Madrid. Sauf qu'au moment où le Real jouait contre Galatasaray, on avait vu Bale à la même heure, jouer au golf à côté de Madrid. On pose la question à Zidane. Bah ouais, ok, il a joué au golf. Ben, j'espère qu'il s'est entraîné quand même notre absence, voilà. Et Zidane qui avait dit, bon, écoutez, si Bale parle demain, ce sera mieux pour tout le monde. On en était là à la fin juillet. Sauf que je pense sincèrement que la fermeture du marché anglais, au-delà du fait qu'il n'y avait pas grand monde, le fait que le marché anglais se termine plus tôt, ça n'a pas aidé. Parce que voilà, on sait très bien comment ça peut se passer, l'histoire Pogba, la dernière minute, vous savez, le 2 au soir, on sait jamais, voilà. Le marché chinois, il y avait une offre d'un club chinois, sauf qu'il était prêt à assurer le salaire de Bale, mais voulait un transfert gratuit. C'était hors de question pour le Real de ne pas tirer au moins 30 ou 40 millions, parce que un joueur qui était acheté 91 millions, c'était un aveu d'échec pour le Real, qui était, c'était brader un joueur, c'était pas possible. Bon, sauf que, à la fin, à peu près une semaine avant la fin du marché des transferts, les dirigeants ont dit à Zidane, écoute, faut que tu fasses avec, il a pas, Bale va pas partir. Zizou n'est pas un dogmatique. Zizou, on a tous connu dans nos championnats José Mourinho. Mourinho, un joueur comme ça, il le laisse dans les gradins, il fait la guerre, nana. Zizou dit, bah, il est là, je vais en profiter, quoi. Surtout que Bale avait quand même fait une bonne préparation de saison, justement parce qu'il pensait partir, il pensait quitter le Real. Bon, et Zidane, vraiment, il aime pas Bale, Bale n'aime pas Zidane, mais les deux se rendent compte qu'ils sont condamnés à s'entendre, pas pour leur bien personnel et pour le bien collectif. Ce qui fait que Bale a joué. Bale a été bon, il en est à 2 buts et une passe décisive, c'est le meilleur avec Benzema qui est aussi à 2 buts et une passe décisive, physiquement il est bien, et surtout il y a un petit changement, Zidane dit des belles choses sur Bale, ouais, il a bien bossé etc, et surtout, et j'en terminerai là avant d'avoir votre avis, Bale lundi dernier, il y a une semaine, a fait un tweet, c'était l'anniversaire, le 6e anniversaire de sa signature au Real. Bale a fait un tweet merveilleux. Quel bonheur, quelle fierté de porter le maillot blanc depuis tout le temps.
Est-ce qu'il l'a fait en espagnol?
Non, il l'a fait en anglais, il faut quand même pas déconner. Hein,
non, parce
pas...
que je me rappelle une anecdote, Fred. On disait, écoutez, Bale, là, dans les mois qui précèdent, donc quand ça n'allait pas, on disait en plus, Bale, il a rien fait pour s'intégrer, il sait toujours pas se commander de la bouffe en espagnol.
Ben, c'est moi qui l'avais dit, parce c'est que c'est quelqu'un qui l'avait dit au sein du club. Au bout de 6 ans, il ne sait toujours pas commander un petit déjeuner en espagnol. Voilà. Mais voilà, ça veut dire que lui aussi, il a mis de l'eau dans son vin. Les deux, ont fait des efforts. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais pour les 3 premiers matchs de la saison, ça fonctionne.
Et là où il a eu de la chance aussi, Fred, c'est qu'Hazard s'est blessé. Qu'à un moment, Zizou,
Hazard, hein, c'est Hazard qui s'est blessé.
Oui, parce que Hazard, il se blesse jamais. Oui. Notre Hazard.
Mais c'est là où il a eu de la chance, c'est que Hazard se blesse, effectivement.
Mais sincèrement, je pense que vu les entraînements qu'il faisait, il aurait joué aussi. Surtout quand Zidane, il prépare vachement les matchs. C'était à Vigo.
Heureusement, il est entraîné.
Un match. Non, mais je veux dire, tu sais, il y a des entraîneurs qui, quel que soit l'adversaire, mettent toujours les mêmes mecs. Le premier match, c'était à Vigo. C'était vraiment une équipe pour jouer en contre. Bale, la vitesse de Bale, face à une équipe assez ouverte, que les espaces étaient parfaits. Donc voilà, il y a tout un alignement des planètes qui a fait que Bale est aligné. Mais bon, surtout, le plus important, la base, c'est que Zidane est pragmatique et que Bale lui aussi. Donc ça peut peut-être.
De toute façon, ils n'ont pas le choix, et tu l'as dit. De toute façon, ils n'ont pas le choix, mais moi, je reste persuadé que c'est pas bon signe pour le Real. Du moins, tant que Bale va jouer, c'est pas bon signe. Alors, je veux bien qu'aujourd'hui, il fasse des différences, parce que Hazard est blessé.
Mauvais signe.
Non, mais ce que je veux dire.
Rames, c'est pareil aussi, parce qu'ils n'ont pas réussi à le vendre. Donc.
Non, mais voilà. Donc, mais qu'il soit encore là. Alors, je veux bien que là, il fasse des efforts. Zidane, lui, il est là. Il l'a à dispo. Donc, en plus, Hazard est blessé. Donc, il le fait jouer. Et puis, l'autre, il marque. Donc, il va continuer à le faire jouer. Le problème, c'est qu'on connaît l'investissement de Bale sur la durée. Je pense pense que ça va pas aller et qu'au d'un moment il y aura des craquages parce qu'il jouera moins, parce que je te dis il y aura une équipe qui va se dégager, ce qui est pas l'équipe d'aujourd'hui. Je pense que l'équipe titulaire d'aujourd'hui ne sera pas celle de dans deux
pour
ou trois
il
mois
met les mêmes joueurs pour le mercato, hein.
Et non mais c'est pour ça et tout ça va faire qu'il va y avoir quelques tensions. Je le souhaite pour Real Madrid, mais garder ce genre de joueur, c'est de la gangrène dans le vestiaire.
Tu peux pas faire autrement.
Je sais, Fred. Non, mais attention. Hein. Je dis pas que c'est de la faute de Zidane ou de l'équipe ou du président. Il est pas parti. Il a un salaire incroyable.
Il a un contrat.
Mais ben oui. Voilà,
donc, en fait, Bale devait une revanche.
Mais tu sais, c'est un peu.
Ça, c'est du grand Florian.
C'est un peu comme le PSG. Hein. Il y a des joueurs qui sont pas partis, et tu verras. Quand ça va aller un petit peu moins bien, tu verras le vestiaire.
Dans quelques instants, on est de retour avec le reste de l'actu. On va parler Italie, l'Angleterre, l'Espagne et Paulo Breitner qui va nous rejoindre dans quelques minutes également. Il attendait la fin du match entre l'Allemagne et l'Irlande du Nord. L'Allemagne a gagné 2-0. On se retrouve tout de suite dans l'After.
RMC, 21h30. L'After Foot, Gilbert Bribois.
Ils sont là, Jérôme Rotten, Florent Gautreau, Jonathan Macardy, plus et le rôle de l'âme. Tiens, Paulo Breitner arrive, le match de l'Allemagne est terminé. Salut Paulo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Paulo. Salut Paulo.
Dans quelques instants, tu vas nous analyser ce match. Je rappelle qu'il reste quelques minutes pour jouer au grand jeu du soir, pour gagner des cadeaux, des téléphones, des télés. Bref, on a du lourd encore à vous offrir. Vous envoyez RMC par SMS.
C'est
gentil, paye. Au 732-16. Si, il y a encore les ordis. Il y a encore tout. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos SMS. Juste avant, j'aimerais que Simonet, on revienne avec toi sur une histoire qu'on n'a pas trop évoquée. C'est la sortie de la liste de Ligue des Champions de Emre Can et Mandzukic à la Juve, parce que encore aujourd'hui, ça fait beaucoup parler à Turin. Hein.
Oui, avant de commencer ça, pour finir l'histoire à Gareth Bale, parce que c'est drôle, vous savez que les clubs chinois qui devaient l'acheter, c'était les Jiangsu Suning, c'est-à-dire le deuxième club des propriétaires de l'Inter, les premiers clubs aujourd'hui, c'est propriétaires de l'Inter. En Italie, il y a eu toutes les rumeurs, ils vont prendre Gareth Bale pour le prêter à l'Inter. Et donc, c'était un gros du mercato. Mais vous savez quel attaquant a pris les Jiangsu Suning à la fin du mercato, comme ils n'ont pas réussi à faire Bale?
Vas-y, dis-nous.
Ivan Santini.
Ah, l'ancien de Caen.
Ouais, le Caen.
Ouais.
Ouais, et c'est pas exactement le niveau quand même.
Ah ouais, non, je te confirme.
Il a quand même mis une quinzaine de buts en Ligue 1, les gars.
Ouais, à quand? Attends, tu l'as vu.
Il a mis des doubles en finale de Ligue des Champions.
Déjà, il n'en a pas mis 15, ça c'est sûr. L'année dernière, sur une saison, 15 buts à Caen.
Non, c'est pas l'an dernier, c'est il y a 2-3 ans.
Oui, non, mais même l'année en Ligue 1, pas 15 buts, c'est pas possible, Jonathan.
Plus de 10 alors.
Ouais.
Avec Caen, il a marqué 27 buts en tout.
Ouais, et il est resté combien?
Il est resté 2 saisons. Après, donc, il est parti à Anderlecht.
C'est pas mal.
Mmh. Où il a moins marqué qu'à Caen.
Non, mais 27 buts, toute compétition.
Hein. Oui, toute compétition.
Ouais, ouais. D'accord.
Bon, alors, attends, il a fait une saison à 15 buts en Ligue 1.
15 buts.
2016-2017, Ligue 1, 34 matchs.
C'est fini chez les espoirs, Loïc Braillet.
Terminé dans ce match amical face au Tchèque et très bonne deuxième période, victoire 3-1 des Bleus avec un doublé d'Hudson Edouard notamment et un but de Mbeumo. Les qualifs arrivent au mois d'octobre et franchement il y a du beau matos à exploiter pour Sylvain Ripoll en vue de se qualifier pour l'Euro 2021.
Alors, avant que Polo nous raconte l'Allemagne, donc Emre Can et Mandzukic, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on dit à Turin, Simonet?
Alors, les conséquences, on était plutôt lourdes, surtout pour Emre Can. On rappelle un faux sort quand ça commence les stages de l'Allemagne. Donc, Emre Can dit, dans une entretien avec plusieurs médias devant caméra, qu'il ne savait rien, que c'était une surprise, qu'il a eu en communication de 1 minute à la peine avec Maurizio Sarri. Donc, très, très, très énervé. C'était vraiment une surprise pour lui. Après, on savait qu'il y avait, je l'avais même dit plusieurs fois, qu'il y avait un groupe de 3-4 milieux qui risquait d'être dehors. La blessure de Chiellini, après, a un peu aidé parce que c'était un défenseur qui était sorti en plus, que c'est bien sûr Chiellini. Donc, entre Betancourt, Matuidi, Emre Can, on savait qu'une devait rester dehors, donc que lui ne savait rien, c'était un peu étrange. Quelques heures plus tard, et probablement après un coup de fil de quelqu'un de très important à la Juve, il change de version avec un tweet, il dit pour moi, la Juve a toujours été à côté de moi quand j'ai eu des soucis de santé.
Ouais.
Il avait une opération à la thyroïde, si je ne me trompe pas, donc il change totalement de version, mais après, il est très, 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 très en colère pour le fait d'être venu à la Juve la saison dernière pour être protagoniste. Il n'est pas dans la liste Champions League, un peu comme Mandzukic. Et surtout, la chose qui peut faire beaucoup de dégâts pour moi, c'est que, selon mes informations, ce que sera aussi un peu en Italie, si Maurizio Sarri considère de ne pas avoir forcément besoin d'un joueur, et on l'a vu dans le passé avec Chelsea et Naples, c'est pas qu'il fait des cadeaux dans les petits matchs.
Non, non. Lui, il a il fait pas tourner. Groupe.
Il fait tourner pas énormément. À la Juve, était obligé de faire tourner parce que t'as une qualité, à mon avis, supérieure à tout ce que t'as eu à Chelsea, bien sûr, à Naples. T'as
rappelle-toi à Naples tous les joueurs qu'il avait fait acheter à De Laurentiis qu'il a jamais fait jouer.
Mais bien sûr, mais une chose, c'est ne pas faire jouer Marco Rogge, et l'autre, c'est ne pas faire jouer Matuidi ou Rabiot.
Ouais, c'est
une chose très, très différente. Donc, on risque de voir un Mandzukic longuement sur le banc de touche cette saison, une Emre Can qui va être dépassé par, je sais pas, Aaron Ramsey, ou qui va obéir en cours, ou qui va considérer être son doublure en plus derrière Khedira, qui est devenu incontournable.
Ouais, ouais,
mais quand même...
il sera en tribune, de toute façon...
Mais pas en Serie A, où t'as les bancs de touche avec 11-12 joueurs. Mais déjà, tu n'es pas dans la Ligue des Champions. Et pour un joueur qui arrive de Liverpool et qui a un salaire, après, il a un salaire énorme, 6 millions et demi.
Mais tu es arrivé libre, joueur, non ?
Il est arrivé libre. Il a été payé 16 millions d'euros entre commission à lui, ses agents. Donc, l'investissement n'a pas été énorme. Il était même mineur de celui fait pour Rabiot. Mais il a un salaire de ouf. Donc, il faut trouver un club après pour partir en janvier. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur... Est-ce que Sarri est capable de faire tourner? Et comment deux joueurs si importants, surtout Mandzukic, vont avoir une influence peut-être négative dans le vestiaire d'ici un janvier?
Ouais, c'est sûr.
Mercato va être ouverte.
Messieurs, dans quelques instants, on est de retour. Polo pour l'Allemagne. Polo veut également parler de la Pologne et de l'Autriche. Hein, parce que c'est aussi.
L'Autriche,
c'est...
oui.
Bah oui. L'Autriche, ça progresse en Autriche, le foot. Attention. Hein. Polo va nous dire pourquoi dans quelques instants. Et évidemment, Fred Hermel toujours là, Simone Rovera et Julien Cazard qui nous rejoint.
Allez,
Jérôme, merci beaucoup.
Bonne soirée.
Seras là demain soir pour analyser avec brio France Andorre.
Il respecte les matchs internationaux. Ne commence pas à faire comme Daniel Riolo.
Non, mais je respecte pas les matchs.
Truc. Ben ouais, ben, alors, tu, avec brio, ben, avec bien brio. Sûr, avec brio.
Tiens, à propos de matchs internationaux, il y a un match amical pour l'Algérie ce soir, qui les champions d'Afrique, qui jouent face au Bénin. Un match amical ce soir à la mi-temps, il y a 0-0. A tout de suite dans l'After, Jérôme, à demain.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.